at night I listen to the night outside the window. A sound reflection, purple gray. An ear upon the glass, I remember that I lived there. The place where I fade away. I want to know what happens. We'll take a walk outside. We'll take a walk outside. Sounds so familiar. No name with a different face. It's not far if you measure as the bird flies. A sound reflection, purple gray. So sing me a distraction. I want to know what happens. We'll take a walk outside. We'll take a walk outside.
À 16h30, Radio Campus Amiens est en direct du salon Agora, le salon des associations d'Amiens Métropole à la Maison de la Culture. Retrouvez-nous sur le 87.7 FM, sur le DAB+ et sur radiocampusamiens.fr.
Salut tout le monde, vous êtes bien sur 87.7 Radio Campus Amiens et on est en direct d'Agora, le salon des associations d'Amiens Métropole organisé par la MAM. Donc voilà, aujourd'hui je suis avec Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour Hugo.
Est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs?
Je m'appelle Thomas Roland, j'ai animé pendant à peu près 3 ans une émission sur le cinéma, à l'écoute du cinéma, j'ai arrêté maintenant, mais que je continue à faire des petites chroniques à droite à gauche dans d'autres émissions de Radio Campus Amiens. Et je suis aussi journaliste de presse écrite, critique de cinéma, ce genre de choses.
Plein de cordes à ton arc. Donc on est aussi avec Antoine, bonjour Antoine.
Salut Hugo.
Alors toi, quel est ton lien avec la radio, qu'est-ce que tu fais?
Bah, moi, on a déjà eu l'occasion de m'entendre quelques fois à Radio Campus Amiens ces 2 dernières années, un petit peu plus l'année précédente, quand j'ai fait mon stage chez vous. Je suis revenu cette année quelques fois pour parler à la radio, notamment au sujet de notre master journalisme et communication à l'UPJV d'Amiens, et aussi pour parler de notre association Speech, notre média, disons entre guillemets, média étudiant sur lequel on travaille. Hein. Tu connais.
On est aussi avec Colline, du coup, en parlant de speech. Donc bonjour Colline.
Bonjour Hugo.
Alors pareil, est-ce que tu peux un peu parler de qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, moi je viens représenter un petit peu Speech à la radio. Et donc Speech, comme Antoine le disait, c'est un média étudiant qu'on a lancé un petit peu l'année dernière et qu'on reprend en fait cette année. Et l'objectif, c'est de proposer des émissions et des sujets à destination des étudiants. Et c'est un média qui est libre, c'est-à-dire que chaque étudiant peut venir adhérer à l'association pour participer à des projets, des émissions. Voilà, donc tout le monde est le bienvenu, tout étudiant est bienvenu pour nous rejoindre.
Voilà, et tout ça en partenariat avec Radio Campus Amiens, bien sûr. Donc, le petit programme de la journée. Voilà, on va vous faire découvrir plusieurs associations qui sont présentes tout au long de la journée, donc de 11h à midi. Ensuite, on fera une petite pause collation, voilà. On reviendra à 14h jusqu'à 15h et encore une petite pause collation parce qu'on a très faim, jusqu'à 15h30. Et ensuite, voilà, on finira à 16h30. Voilà, donc n'hésitez pas à passer, on est juste à l'entrée de la Maison de la Culture, sur votre gauche, le stand 198. Voilà, donc on vous attend toute la journée, vous découvrirez des interviews, je vous l'ai dit, quelques petites surprises, et puis de la musique très sympa, choisie par moi-même. Donc voilà, je crois qu'on a une autre invitée autour de la table. Si vous pouvez vous présenter.
Oui, bonjour tout le monde, merci de me recevoir. Moi je suis Lisa et je suis la responsable de la bouquinerie du SAR. On est une librairie solidaire qui collecte et revend des livres, CD, DVD, vinyle et bientôt même friperie pour permettre la réinsertion par le travail. Vraiment, l'objectif de cette association, c'est d'aider les personnes qui sont logées dans les centres d'hébergement sur la métropole amiénoise à rebondir vers une vie plus autonome.
Moi, j'ai justement demandé de présenter l'association, mais je pense que c'est déjà fait. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Moi, ma première question, ce serait... Pourquoi est-ce que vous vous lancez dans cette aventure ? Elle a ouvert en avril dernier.
Exactement.
Boutique. Donc pourquoi est-ce que se lancer dans cette aventure ?
Oui. Alors, tout simplement parce que c'est un super projet, c'est une vraie mission concrète et directe, à la fois pour les personnes donateurs, donc qui souhaitent faire le tri chez eux, qui ont beaucoup trop de livres, trop de place, qui déménagent, enfin bref, tout le monde a des livres à donner. Donc ça répond à ce besoin-là, même si notre objectif, évidemment, c'est d'accompagner les personnes vers un nouvel élan. Et donc ça répond à ce besoin-là également des centres d'hébergement qui sont saturés. Trop souvent. Et nous, on souhaitait vraiment, plutôt que d'ouvrir un centre d'hébergement, puisqu'on n'a pas les compétences sociales non plus pour le faire, mais du coup, de se dire, il y a des personnes qui sont à un moment donné pris en charge par des structures d'accueil et qui arrivent à un moment donné dans leur parcours à vouloir retrouver leur autonomie, à vouloir rebondir. Donc, ça répond, je dirais, on peut allier et donateurs et insertion directement et concrètement. On n'est pas tous prêts à faire des maraudes ou voilà, à vraiment s'engager de manière de consacrer énormément de temps à une association, mais simplement en donnant des livres. On estime à 15 livres donnés, c'est une heure de travail pour un bouquiniste en insertion. Donc, ça permet vraiment de, voilà, à nos adhérents de contribuer directement et concrètement à la réinsertion par le travail.
Mais donc comment est-ce qu'on peut vous faire des dons, par exemple ? On vient directement à la boutique, comment ça se passe ?
Oui, alors il y a deux manières de nous donner les livres. On les collecte donc via des box. C'est un peu comme les box Le Relais, vous voyez des box où on collecte les vêtements. Nous, on a des box comme ça où c'est marqué « Donnez vos livres » qui sont installés sur différents parkings, Otera, Boulanger, Laura Merlin, et bien d'autres à venir, je l'espère, sur Amiens et alentour. Et, ou alors directement dans notre bouquinerie au 7 rue Jean Froissart, dans le quartier Amiens plein sud.
Pardon, excusez-moi. Ces box, on peut les retrouver par exemple sur Internet, sur votre site Internet ?
Tout à fait, oui. On a un site Internet, bouquineriedussard.com. Il y a un lien qui permet d'accéder à Google, où on a pointé tous les endroits des box, que ce soit à Amiens, alentour, mais également, je dirais, principalement sur la métropole lilloise. La bouquinerie du SAR a été inventée, fondée il y a 7 ans, à Villeneuve-d'Ascq, par Vianney Poissonnier. Et donc, du coup, c'est aussi ce projet-là, cette mission-là qu'on souhaite répliquer ici à Amiens. Donc c'est un vrai enjeu de savoir est-ce qu'on peut répliquer une association qui permet d'allier donateurs et insertion.
Vous parlez également de magasin école sur votre site internet. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le concept de magasin école que vous développez ?
Tout à fait. Alors, les personnes qu'on accompagne, on les accompagne sur un contrat de 1 an environ. parce que l'idée c'est qu'on soit tremplin dans leur vie. Donc c'est vraiment un CDD à durée limitée, avec une première phase de remise à niveau, où là on les accompagne sur les fondamentaux qui nous semblent en tout cas fondamentaux pour réussir dans le monde du travail, c'est-à-dire être bon camarade, fiable, professionnel. Et tout ça on le décline avec différentes activités, différentes missions qu'on effectue au niveau de la bouquinerie, donc avec le tri, l'encaissement, l'accueil des clients, explication de la mission, voilà, il y a différentes déclinaisons, plein d'autres activités au niveau de la bouquinerie qu'on va décliner et qu'on va accompagner, on va dire, étape par étape. Parce qu'effectivement, lorsqu'on a été déconnecté du monde du travail pendant très longtemps, l'idée, c'est aussi d'y aller étape par étape, de leur redonner confiance avant tout, évidemment, mais aussi d'avoir des vrais objectifs tous les mois. Donc, je vois chaque personne en rendez-vous formel, on va dire, aussi pour les préparer au monde du travail classique, avec des objectifs, etc. Donc c'est en ça qu'on est un magasin école, et puis dans le reste du parcours on les aide évidemment à retrouver leur propre logement et à définir un nouveau projet professionnel. Mais peut-être que je m'avance un peu trop.
Mais donc si on souhaite rejoindre votre bouquinerie à titre bénévole par exemple pour vous aider dans ce projet, comment est-ce qu'on peut s'y prendre ?
Alors, j'inviterai toutes les personnes qui souhaitent être bénévoles déjà à venir nous voir au 7 rue Jean Froissart. Ça leur donnera déjà une idée de l'environnement dans lequel on accompagne les personnes en insertion. Et puis aussi de voir leurs affinités. Est-ce qu'elles souhaitent nous aider avec le tri du livre, avec justement l'accompagnement des personnes en insertion? Ça peut être ça aussi. Les aider à faire un CV en fin de parcours, évidemment, ou à leur faire passer des petits entretiens individuel pour les préparer au mieux au monde du travail. Donc il y a vraiment différentes activités de bénévolat qui peuvent être pensées, aménagées en fonction des, je dirais, des expertises, des envies de nos bénévoles.
Et est-ce que vous avez un petit peu une idée de comment vous souhaitez développer davantage la bouquinerie à long terme ?
Ah oui, alors on a ouvert donc il y a 4 mois. Et on est déjà très reconnaissant de l'élan positif qu'on a reçu, du support, de l'enthousiasme des personnes qui sont venues nous voir. Et donc déjà la semaine prochaine, j'ai demandé à un ami, à mon petit frère, de venir nous aider à installer davantage d'étagères, parce qu'on a besoin de créer davantage d'étagères pour recevoir tous les dons de livres et les mettre à disposition. Et puis comme je vous le disais au tout début, on va lancer une friperie puisqu'on a un super local de 500 m². Et donc l'idée, c'est effectivement de diversifier nos activités. Et la friperie, clairement, je ne sais pas encore exactement dans quoi je me lance, mais je sais que c'est beaucoup de travail, ce qui est évidemment tout l'essentiel de notre mission, parce que ça va nous permettre de recruter davantage de personnes. Et à l'heure actuelle, je suis en train de recruter 2 personnes en insertion supplémentaire.
Bien, merci beaucoup. Et donc,
avec
on peut
plaisir.
Vous retrouver rue Jean-François du mardi au samedi de midi à 19h.
C'est ça, exactement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Donc merci Lisa de la bouquinerie du Sar. Donc voilà, on va enchaîner avec un petit morceau, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je vous propose d'écouter, c'est un coup de cœur en ce moment, c'est l'artiste belge Crazy avec le son Sisyphe.
Je fais de mon mieux, j'essaye.
Tout revient dans l'ordre.
reconnais, je me connais, je reconnais mes erreurs, c'est vrai.
Tout revient dans l'ordre, souvent.
J'ai appris, je recommence et je fais de mon mieux, j'essaie.
Tout revient dans l'ordre, souvent.
Je me connais, je me connais, je me connais. Tu penses que t'es le même, mais au fond c'est faux. Essaye de faire la diff entre les actes, les mots. Des blèmes qui te cassent le dos. Mais t'inquiète pas, on verra tous la fin du saut. Le ciel pousse regard en haut. Sache qu'au fond on est tous bénis par nous. On n'oublie pas ce que tu vaux. Essaye de faire la diff entre les actes, les mots. Yeah. Mon cœur et ma tête discutent, c'est trop. Je voudrais en parler mais j'ai pas les mots. Je ressors mon corps en dehors de l'eau. Mon cœur et ma tête discutent, c'est trop. Je voudrais en parler mais j'ai pas les mots. Bitch, fais plus de date. Ça parle de moi comme si j'étais comme les autres. À vrai dire, ça me fait plaisir quand tu hates. Compte pas sur moi pour arroser ta graine avec liquide que j'ai dans la poche. Si t'as pas compris la métaphore, m'appelle pas frère si tu fais pas partie de mes ch. Facile, je vais pas dire que je suis meilleur que toi, mais vas-y, viens faire un tour sur mon territoire. On sait tous que la santé est importante, c'est pour ça que je veux pas voir l'un de vous perdre du poids.
Et là, tout de suite, je vois que des grimaces.
J'ai le cœur serré, la force de 10 gars. J'attache ton corps sur un billard si tu veux connaître ma vie qui t'a l'air peinard. Je suis à mi-chemin entre bien et mal, le blanc et noir, bref, etc. Si tu te reconnais dans mon histoire, c'est que tu t'es déjà fait avoir par ton euphoria.
De 11h à 16h30, Radio Campus Amiens est en direct du salon Agora, le salon des associations d'Amiens Métropole à la Maison de la Culture. Retrouvez-nous sur le 87.7 FM, sur le DAB+, et sur radiocampusamiens.fr.
Hey, vous venez d'écouter Sisyphe de Crisy. Voilà, on est toujours au Salon Agora organisé par la MAM à la Maison de la Culture. Donc voilà, on a de nouveaux invités, n'est-ce pas Thomas?
Oui, en effet, nous sommes avec Eleonore qui est la secrétaire, la chargée de communication de l'association Kigurai Kendo, et avec Jérémy qui en est un des professeurs. Alors l'association Kigurai Kendo, qu'est-ce que c'est?
Alors c'est une association à but non lucratif, donc de 1901. Aujourd'hui, on est à peu près une vingtaine de licenciés. Alors, le kendo, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'escrime japonaise. Donc, c'est ce qui découle tout simplement de l'entraînement des samouraïs, le kenjutsu, qui a donné naissance en fait à trois arts martiaux, l'iaido, le kendo et le batodo, qui est la coupe. Le kendo est la partie combat, en fait, de cet escrime. Donc, on est équipé avec l'équipement traditionnel, en fait. Donc, le gi, la veste, le hakama, le pantalon traditionnel, avec les plis, et puis le bogu qui est l'armure, donc qui nous protège le haut des cuisses, le plastron qui nous protège le haut du corps, et puis les gants et le casque. Donc, aujourd'hui j'ai pas le casque, mais voilà. Et aujourd'hui donc le kendo nous permet en fait de reproduire des échanges d'escrime intenses en sécurité.
Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'il y a une philosophie derrière ce sport?
Alors c'est la même philosophie que tous les arts martiaux japonais au final, hein. C'est-à-dire que l'idée c'est de, normalement quand on dégaine le sabre on a déjà perdu, et à partir du moment où on rentre dans le combat c'est quelque chose qui devient de plus en plus contrôle de soi, maîtrise des émotions, maîtrise du geste en fait, parce que voilà, on a des zones de frappe pour qu'elles soient validées, donc il y a trois arbitres, pour qu'elles soient validées il faut que la bonne partie du shinai, qui est le sabre en bambou qu'on utilise pour les combats, frappe la bonne partie de l'armure. Et donc ça veut dire en fait être capable d'être disponible, avoir le bon état d'esprit à n'importe quel moment. On travaille aussi sur une unité, donc on appelle, pour que la frappe soit comptée, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le kikentai. Le ki, c'est l'énergie, le ken, donc c'est la bonne frappe à valide, et le taille c'est le corps, et il faut que l'ensemble de ces trois éléments soient réunis. On peut avoir 50 frappes et pas avoir un seul point, donc c'est un travail énormément personnel vraiment travaille à développer le corps et l'esprit et en fait son énergie personnelle à côté.
Alors, ce sport se pratique dans un endroit particulier qu'on appelle un dojo. Alors, nos auditrices et nos auditeurs ne savent peut-être pas ce qu'est un dojo et pourquoi on appelle ça un dojo.
Alors, en fait, dojo, c'est un lieu de pratique. C'est le lieu de la voix. En fait, on retrouve le mot, ça se décompose en deux sons. Hein. On retrouve Do, qui est la voix, qu'on retrouve dans Kendo, Judo, Aikido. C'est la voie en fait que l'on choisit, et donc le dojo, c'est l'endroit où on pratique sa voie. Donc le dojo où on pratique, en fait, c'est que comme tout endroit, il y a des règles, il y a du respect, il y a le respect des partenaires. C'est pas parce que on se tape dessus qu'on se respecte pas, au contraire. On est là pour apprendre, même les plus gradés apprennent des nouveaux et vice versa. Donc c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où on est là pour pratiquer ensemble et traverser les difficultés de la progression, parce qu'il y en a, hein, c'est-à-dire que forcément, comme toute voie martiale, la progression est assez longue, on peut se retrouver sur des paliers, des choses comme ça. Et voilà, l'idée, c'est de travailler ensemble, comme on dit, c'est les anciens tirent les nouveaux et les nouveaux poussent les anciens.
À qui s'adresse ce sport? Qui peut s'inscrire à Kigurai Kendo?
Alors aujourd'hui, on s'inscrit, c'est très large, hein, c'est-à-dire que malheureusement, on n'est pas encore suffisamment gros pour avoir créé une section enfant, mais à partir de 14 ans. Et ensuite, il n'y a pas d'âge limite aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une pratique que l'on peut adapter, c'est pas un sport de percussion, on est protégé par une armure, voilà. Donc on est capable d'évoluer. Moi, j'ai pratiqué au Japon et je me suis pris des corrections par des gens qui avaient 70 ans, qui étaient 8e dan, et voilà, donc on peut rester très efficace à un âge avancé. Voilà, donc c'est une pratique qui peut durer de toute une vie, quoi, finalement.
J'ai cru comprendre que le kendo a du mal à s'imposer en France, notamment en tant que sport. Alors, est-ce que c'est un art martial? Est-ce que c'est un sport?
Alors, ça reste un art martial. Alors, c'est aussi catégorisé comme un sport de combat, parce que du fait que l'on ait des échanges qui soient réels. C'est-à-dire que c'est un art martial, mais c'est un art martial tourné vers le combat. Donc, comme le karaté, comme vous aurez des choses comme ça, vous reviendrez avec des bleus, forcément, même si on a l'armure. L'armure amortit les coups, mais il y a quand même des coups, quoi. C'est un peu le principe du gilet pare-balles. ça permet de ne pas être blessé de façon trop importante, mais on a quand même les impacts. Ensuite, la vraie difficulté du kendo, c'est la discipline que ça demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un sport qui demande, ou un art martial, qui demande vraiment de s'investir. Et avec la précision que ça demande, c'est une progression de tous les jours. Et il y a toujours quelque chose à corriger. C'est-à-dire qu'on peut être à très haut niveau, on aura toujours des choses à améliorer, des choses à corriger. Et donc ça nous oblige en fait à une discipline et à une non-autosatisfaction de notre niveau, qui est difficile en fait. C'est-à-dire que, et puis ça peut être très frustrant du coup de ce fait-là.
Donc c'est tout cela qui fait que le kendo a du mal à s'imposer en France?
Aujourd'hui, oui, parce que voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui viennent, qui essayent. Et beaucoup de gens imaginent qu'on va leur mettre une armure tout de suite et puis qu'ils vont commencer avec un shinai à combattre et autres. Aujourd'hui, non, ça ne va pas être ça. Dans les faits, ça va être d'abord, on va vous apprendre les bases, on va vous apprendre à vous déplacer, on va vous apprendre à frapper. D'un point de vue, ne serait-ce que pour vous et pour la sécurité de la personne qui va prendre les coups aussi. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne passent pas cette première étape. C'est-à-dire que c'est répétitif, c'est long au début. Et donc du coup ça te décourage. On a vraiment trois étapes en fait en kendo où on voit les gens arrêter. Cette première étape, c'est ça. La deuxième étape, c'est souvent quand ils mettent l'armure, parce qu'ils s'aperçoivent ok, on a l'armure mais on sent quand même les coups. Donc là c'est la deuxième étape. Et souvent aussi quand ils arrivent à la ceinture noire, c'est j'ai ma ceinture noire, ça y est, j'ai atteint. Alors que la ceinture noire, ça veut dire, ça y est, vous savez marcher, vous savez vous tenir debout, maintenant vous allez apprendre à courir et vous allez apprendre à vous déplacer, quoi.
Alors justement, pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est un investissement en ce qui concerne la tenue, l'armure, comment ça se passe?
Alors, au début, non, nous, quand vous venez essayer, on fournit des shinai, il y a besoin juste d'un jogging, quelque chose, ou de vêtements amples qui vous permettent de vous accroupir confortablement. On fournit donc le shinai. Après, quand vous vous sentez à l'aise, on va vous demander d'investir dans le pantalon et puis la veste. Ça coûte à peu près 70-80 euros, ça dépend pour les deux. Un shinai, c'est une trentaine d'euros. Voilà. Après, donc, il n'y a pas besoin de ça pendant. Il y a besoin que de ça jusqu'à ce que, bah, voilà, vous ayez acquis toutes les bases pour pouvoir commencer à mettre l'armure. Le temps pour mettre l'armure, c'est vachement variable. C'est-à-dire que ça va dépendre forcément de la personne, de son investissement, s'il vient à tous les cours ou autre, et tout ça. Une armure, les premiers prix, en général, ce qu'on conseille, c'est vrai que bon, ça va coûter à peu près une 300-400 euros. Par contre, on ne la change pas tous les ans. C'est-à-dire qu'une armure, elle va durer 5-10 ans en fonction de si vous en preniez soin. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un investissement à l'instant T, mais ce n'est pas un investissement qu'on refait de façon régulière, en fait. C'est-à-dire que moi, ça va faire près de 20 ans que je fais du kendo. J'ai dû acheter en 20 ans 3 armures. Et encore, c'est plus parce que... Et j'utilise encore les 3. C'est plus parce que bah, voilà, quand j'ai des sessions d'entraînement avec des stages ou autres, bah, j'aime bien avoir une deuxième armure qui est sèche. Quand je me suis entraîné le jeudi soir et que le vendredi on part sur un stage, c'est plus agréable d'avoir une armure qui est sèche qu'un truc qui est encore en train de sécher, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un investissement, mais c'est un investissement qui dure aussi.
Bon, on connaît les vertus cathartiques du sport, hein, je suppose, en plus d'un sport de combat. Qu'est-ce que ça apporte au niveau, on va dire, individuel, spirituel, de pratiquer le kendo ?
Bah, c'est vraiment la maîtrise de soi. C'est-à-dire que le kendo a un aspect qui est très mental, dans la mesure, alors parce que voilà, ça reste un sport de combat. Moi, je suis arrivé au kendo de par du karaté. En venant du karaté, c'est vrai que ce que j'ai retrouvé au kendo... Donc il y avait cet aspect encore combat que je retrouvais du karaté, cet esprit de combatif que je pouvais garder. Mais par contre, ce que j'avais, bah, c'est que voilà, avec les shinai, on se retrouve, au lieu d'être au corps à corps, on se retrouve à une distance qui est à peu près de 2 mètres par rapport à l'autre. Et donc surprendre quelqu'un quand on est à 2 mètres comparé à surprendre quelqu'un quand on est au corps à corps, bah, ça demande un travail qui est beaucoup plus mental, une pression qui est beaucoup plus importante pour vraiment sentir le moment où il a un moment d'absence, en fait, pour pouvoir y aller. Parce que bah, au moment où il a ce moment d'absence, bah, il faut le saisir parce qu'on a ce. Il faut qu'on couvre 2 mètres avant de pouvoir l'atteindre, quoi. Donc c'est vraiment ce travail-là. Et c'est vraiment ce qui permet, quand on monte et quand on évolue, de maîtriser le combat. C'est vraiment une maîtrise du combat. Moi j'étais encore là il y a quelques mois au Japon où je me suis entraîné bah, avec un de mes profs que je suis là-bas. Et en fait, au moment où je partais pour mon attaque, ben, je m'apercevais que j'étais exactement, encore une fois, à l'endroit où il voulait, comme il voulait, et je lançais l'attaque que lui m'avait fait lancer, en fait, tout simplement. Il avait travaillé sur les déplacements, sur la façon, sur les pressions, pour me faire déclencher d'une certaine façon. Et donc, en fait, j'avais déjà perdu. J'avais déjà perdu. Au moment où je partais, j'étais battu. Voilà. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et puis, c'est que... on développe vraiment cet aspect de rester calme à tout moment, de maîtriser justement cet élément-là, malgré ce qui peut arriver, malgré les coups, malgré la pression de l'adversaire. Et l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que c'est de maintenir, de garder sa posture, de garder sa maîtrise, quoi qu'il arrive, quoi que l'autre fasse. Et l'idée, c'est justement d'amener l'autre à faire ce que nous, on a envie de faire.
Alors, ultime question plutôt pratique, j'ai demandé à Eleonore, comment vous contacter ?
Alors, pour nous contacter, c'est très simple. Vous pouvez aller directement sur notre page Facebook. Il y aura un lien pour nous envoyer un message via Messenger. On peut aussi nous contacter via mail ou par téléphone.
Et le mail, c'est ?
kigurai.kendo@gmail.com.
C'est ça.
kigurai.kendo@gmail.com.
Et donc la page Facebook, je suppose que c'est Kigurai Kendo.
Tout à fait.
Voilà. Kigurai Kendo Amiens. Et on a aussi une page Instagram.
C'est ça, qui a été nouvellement créée l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et on est assez actifs sur les réseaux sociaux de manière générale.
Eleonore et Jérémy, je vous remercie.
Bah, merci à vous.
Et puis bah, je vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous aussi.
Merci, au revoir.
Donc voilà, c'était le Kikurai Kendo qui est venu répondre à nos questions. Donc un échange super intéressant. Donc voilà, si vous voulez essayer, vous savez où les contacter. Moi, je propose qu'on fasse une petite pause musicale avec le morceau Madeline de Kiki Rockwell.
Madeline, near the front of the line. I'm sorry, but I cannot let you sign. Your arms are far too skinny and you never last a single day upon my ship. The open sea is no place for a lady. There's reasons that they stay, we cannot break. Before you think of Betty, you're a lady too. I've long ago denounced the wretched world. Posse right, 'cause I've been chopping wood and starting fist fight. Surely this time let me at your side. Girl, you're the front of the line. I'm sorry, but I cannot let you sign. You've only tried a pony at the school fair. A day amongst my men. The canyon is just no place for a lady. There's reasons that they say we shouldn't ride. Before you say that, Maddie, you're a lady too.
De 11h à 16h30, Radio Campus Amiens est en direct du salon Agora, le salon des associations d'Amiens Métropole à la Maison de la Culture. Retrouvez-nous sur le 87.7 FM, sur le DAB+, et sur radiocampusamiens.fr.
Hey, vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens, on est toujours en direct du salon des associations d'Amiens Métropole. Donc on a deux nouveaux invités avec nous actuellement. Franck, président de l'association Ambiani Découverte. Bonjour Franck.
Bonjour.
Et Aude, du coup, de l'association également, qui accompagne les marcheurs sur les sentiers.
Bonjour Hugo.
Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez un peu nous présenter l'association? Depuis quand elle existe, le concept?
L'association, elle existe depuis 92. Elle faisait pas des sentiers à l'époque, mais on l'a remise un peu en vie depuis un an. De façon à mettre en place un sentier de découverte de la région, principalement de la vallée de la Somme, sur la partie ouest du département, entre le Amiens et la Saint-Valery-sur-Somme, la baie de Somme. L'idée, c'est de proposer sur 4 jours une déambulation autour de la découverte de la vallée, de ses monuments, de ses paysages et de ses particularités, aussi bien architecturales que spirituelles, que, voilà, pour proposer ça aux gens qui ont envie de découvrir d'une façon différente le département de la Somme, en tout cas sa partie ouest.
Et comment elle s'organise, cette randonnée ?
Elle s'organise sur 4 jours, avec un départ sur le parvis de la cathédrale d'Amiens. Et à la fin, en fonction des marées, la possibilité de traverser à pied la baie de Somme. Et ça s'organise donc sur 4 jours. On fait en moyenne entre 25 et 33 ou 34 km par jour. La rando est encadrée, mais ça, Aude pourra nous faire être un peu plus en détail là-dessus, sur l'organisation précise des journées. Mais l'idée, c'est de découvrir le département autrement, quoi, à la vitesse de la marche à pied, et de pouvoir se poser, découvrir, goûter des plantes comestibles sauvages, apprendre à les cuisiner lors de ses repas, pour agrémenter sa salade ou son sandwich, et pouvoir vivre quelques jours à un autre rythme.
Oui, Hugo, donc ces 4 jours sont vraiment orientés vers la découverte des patrimoines de la Somme. Donc d'abord le patrimoine naturel. Donc effectivement, les compagnons sont tous en capacité. Donc je dis les compagnons parce que l'objectif est de mettre le collectif au cœur de l'aventure. Donc on propose un cheminement, un sentier, mais les décisions se prennent avec les marcheurs. Donc c'est vraiment une démarche tout public. Le plus jeune ayant jamais fait un sentier avait 7 ans et le plus vieux 80. Donc la marche est vraiment une activité naturelle pour les hommes et les femmes. Bon, on porte un sac à dos, certes, mais l'idée est vraiment de redécouvrir l'autonomie, le collectif, le patrimoine naturel, culturel, comme le disait Franck. On raconte la grande histoire au travers des petites histoires de la vallée, et on y tient beaucoup. On va à la découverte des humains, des hommes et des femmes de ce territoire, et notamment de ce territoire éminemment rural. Il n'y a pas beaucoup de nature brute dans la Somme. Le paysage est dessiné par les hommes depuis la nuit des temps. On passe par Samara, donc on parle notamment de la proto-histoire. Enfin, on part de la proto-histoire pour arriver jusqu'à nos jours et envisager de quelle manière l'homme a dessiné le paysage dans notre région.
Donc c'est un vrai cours d'histoire pratique, en fait.
Voilà, c'est très pratique, c'est du pratico-pratique. On marche très lentement, on marche à une vitesse moyenne de 3,5 km de l'heure. On fait énormément de pauses. Et l'idée, c'est de passer par l'expérience et non pas par un enseignement intellectuel et empirique. Il n'y a pas vraiment de vérité assénée. C'est voilà, on fait un constat du paysage de la Somme, et on se rend souvent compte qu'on fait plus ce qu'on peut que ce qu'on veut, et que dans l'ensemble, ça donne quand même un paysage relativement harmonieux, organisé, et où tous les règnes peuvent vivre ensemble. Donc c'est assez chouette.
Et donc, vous disiez, c'est ouvert aux débutants, en fait. Même si on n'a jamais fait de randonnée, on peut venir ou...
Oui, c'est ouvert aux débutants, voire même aux personnes et aux jeunes en situation de handicap. Cette année, on a participé au budget participatif du département. Les Samariens ont voté pour nous, on en est très heureux. Donc, on a fait une levée de fonds de 39 000 euros auprès du département pour pouvoir faire marcher une petite centaine de jeunes avec leurs éducateurs ou leurs accompagnants. Donc voilà, nous allons faire marcher presque 100 jeunes entre 10 et 16 ans sur 2024 et 2025, soit des jeunes en situation de handicap, soit en situation de rupture avec le milieu scolaire. Voilà, donc c'est notre grand projet de l'année prochaine.
Et pourquoi avoir choisi du coup de s'adresser à ce public ? C'est important pour vous ?
Ben oui, l'humain est au cœur de notre aventure. Tous les compagnons et les bénévoles de l'association aiment la nature, ou en tout cas préserver les patrimoines. Et s'il n'y a pas d'humains, il n'y a pas de préservation. Donc c'est la base. Et la déambulation permet une approche très sensible et pragmatique de tous ces patrimoines. Et c'est sans filtre. Donc je trouve que c'est... Enfin, nous trouvons que c'est tout à fait destiné à ce type de public.
Donc, il y a un transfert de connexion en plus. On déconnecte des écrans pour se connecter à la nature pendant 4 jours.
Ouais. Et je veux revenir aussi sur le côté un peu pratique. Du coup, comment ça se passe pour manger, pour dormir pendant ces 4 jours ?
Donc, c'est 4 jours et 3 nuits d'aventure. Donc, c'est un peu l'idée de j'irai dormir chez vous quand même, hein, notre aventure dans la Somme. Donc, il y a 2 nuits de bivouac qui se passent chez l'habitant. Okay. Donc chez des membres de l'association, donc la première nuit chez Franck, notre président, à Bourdon par exemple. On a aménagé son jardin et on a ensuite accès à des sanitaires, on peut prendre une douche, etc. Et on fait les repas ensemble, effectivement, on agrémente nos repas de plantes sauvages quand c'est la saison, hein, parce qu'en plein hiver, on n'est pas toujours prêt à manger des racines, n'est-ce pas ? Ce serait un petit peu spartiate. Et on passe une nuit en nature, aux abords de Saint-Riquier. Chacun porte son sac à dos. On a des points relais tout au long de la marche pour se sourcer en eau et en nourriture. Ça nous permet d'aller aussi à la rencontre des petits commerces du tissu rural. Donc on a plein de sympathisants chez les Ambiani. Voilà. Voilà, c'est une aventure Ambiani. Donc pour ceux qui ne savent pas, Ambiani, c'était le nom de la tribu gauloise qui occupait la vallée de la Somme. Voilà, sur la période proto-historique.
Vous avez un ou plusieurs parcours ?
Alors, on en a un seul, qu'on fait 8 fois l'année, qui est destiné au tout public. Et pour cette aventure dédiée aux jeunes, puisque pour les plus jeunes, on en a fait un plus court, qui ne dure que 3 jours, avec des bivouacs en camping. Parce que pour des jeunes de 10 à 13 ans, qui sont parfois en situation de handicap, il faut quand même avoir un lieu un peu plus préparé, en tout cas à l'accueil de ce genre de public. Voilà. Mais on a d'autres projets de défrichage. On dit qu'on défriche des sentiers, parce que les sentiers existent déjà, on n'y va pas avec la machette, mais pour pouvoir avoir un bon ratio de marche sur une journée, on fait tantôt du GR, tantôt du chemin agricole, un petit passage de route, donc ça se défriche vraiment pour avoir un bon quota de kilomètres par jour.
Et petite question un peu cocasse, ça vous est déjà arrivé qu'il y a un participant qui, voilà, au bout d'une nuit ou quoi, il peut pas, je sais pas, il a peur des bêtes ou il veut rentrer chez lui parce que ses écrans, sa PlayStation lui manquent. Est-ce que c'est déjà arrivé ?
Alors, on a un faible taux de perte, on va dire ça comme ça. Donc, aucun mort, super.
Bonne nouvelle.
Mais pour autant, des pertes comme ça, ça existe assez peu. Parce que le groupe fait vraiment son office.
Il y a une cohésion.
Il y a peut-être des gens qui parfois se sentaient un peu coupés dans une forme de solitude. Bah, ils redécouvrent le simple échange avec les uns les autres. Quand on est un petit peu dans le dur, qu'on a mal aux pieds ou une ampoule qui vient d'apparaître, et ben, y a du soutien qui se fait. Et puis on se rend compte que finalement on est tous fait pareil. Qu'on a tous mal aux pieds.
Qui se fait avec l'ensemble des participants qui au début y a, comme dans tous les groupes, hein, y a des joviaux, il y a les gens qui restent un peu sur eux-mêmes, etc. Mais au bout de la marche, au bout d'une heure ou deux de marche, il y a un lien qui se fait presque naturellement, on y pense sans y penser en fait. Et du coup effectivement la perte en ligne est quand même très très faible.
Donc, mais comment du coup est-ce qu'on peut vous contacter si on est intéressé pour faire une marche ?
Alors, on a une adresse mail. Donc c'est ambianidécouverte, tout attaché à gmail.com. On a également une page Facebook qui est le sentier des Ambiani, où on retrouve toutes les dates de sentier à l'année. Et j'en profite d'être à votre antenne pour faire un petit appel à bénévolat. Si des gens aiment la marche et qui ont envie de découvrir la vallée autrement, accompagner les groupes, eh ben, welcome.
Super. Eh bien, merci beaucoup, Franck et Aude.
Merci beaucoup.
Donc, on vous retrouve toute la journée sur le salon.
Absolument.
Et on vous dit, bonne journée, du coup, bon courage.
Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Donc, voilà, on est toujours au salon des associations. On va faire une courte pause musicale avant d'accueillir notre prochaine invitée. Voilà, je vous donne un petit indice médiéval. Donc, on va s'écouter Gallows Tree de Vadim Vernet.
Take a shot to build a home, find love and take away. life. Make yourself a name, get some hope, get some friends, get a purpose, a goal and the keys. Get high and get lower and faster and more. You're alone. The phone, say I'm fine. Take this fucking medicine. Get away and get lost. Get a new car and pay the costs. Get high and get low. Dig deeper, dig more. You're alone. Some help, take painkillers if heart aches. Share your dreams and give us news. Fulfill life and get new shoes. Find your way, find yourself. Get a map and take some rest. Get high and get low. Be wise and be more. You're alone.
À 16h30, Radio Campus Amiens est en direct du salon Agora, le salon des associations d'Amiens Métropole à la Maison de la Culture. Retrouvez-nous sur le 87.7 FM, sur le DAB+ et sur radiocampusamiens.fr.
Vous écoutez Radio Campus Amiens, on est toujours à l'intérieur de la Maison de la Culture, donc voilà, sur votre gauche quand vous entrez au stand 198. N'hésitez pas à passer nous voir ou à nous écouter, voilà. Je crois qu'Antoine, tu as ton invité Pierre-Henri qui est là.
Tout à fait, Pierre-Henri, qui vient nous parler de l'association fondée par le docteur en histoire Pierre-Henri Bas. Alors, comment est-ce qu'on prononce RECT, simplement?
Alors, je ne sais pas. J'ai découvert, j'ai inventé l'acronyme et je ne sais toujours pas le prononcer. Donc, RECT, R-E-G-H-T, RECT. Voilà, donc, comme vous voulez.
Acronyme qui signifie, donc?
Alors, c'était dans mon travail de thèse de doctorat. Donc, c'est un titre un peu ronflant. Donc, recherche, expérimentation du geste historique et technique. Ça faisait bien dans le milieu universitaire. Bon, maintenant, dans le milieu associatif, voilà, on est un club de cette pratique-là qu'on va expliquer, mais on reste simple, quoi.
D'accord, et donc la pratique en question, c'est la pratique des AMHE. Alors,
voilà, encore un acronyme, encore incroyable, quoi, dis donc. Donc, c'est les acronymes, encore une fois, donc c'est les arts martiaux historiques européens. Concrètement, en fait, ce sont des arts martiaux qui ne sont pas asiatiques. On ne fait pas de judo, on ne fait pas de karaté, et qui ont la particularité donc d'être historiques, c'est-à-dire qu'ils se basent sur des sources anciennes, des manuscrits, des traités d'escrime, de lutte, de combat à cheval, de combat en armure. Donc c'est très général. Et donc pour parler de toutes ces pratiques corporelles et martiales, on va parler d'arts martiaux historiques européens.
Ah, ce serait bien de pouvoir éventuellement nous faire un petit point sur l'association, enfin son histoire, la raison de sa création initiale et peut-être votre rôle au sein de cette association.
Voilà, alors moi l'association, donc, je l'ai créée en 2010 sur Lille pour mon travail, pour une thèse en histoire médiévale sur le combat à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance à partir des traités. Et en fait, cette association a grandi, elle existe toujours sur Lille, il y a une antenne à Dunkerque. Il y a eu même une antenne sur Avignon à un moment. Et m'installant sur Amiens avec ma compagne assez récemment, on a rouvert une salle d'armes dont j'ai la responsabilité tous les dimanches matins à Amiens.
Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quel type d'arts martiaux historiques européens vous pratiquez ? Alors, je sais qu'il y a notamment des formes d'escrime avec des dagues, des rapières, du pugilat. Qu'est-ce que...
Alors, en fait, les arts martiaux se basent sur énormément de traditions martiales différentes, des traditions souvent italiennes ou allemandes, à partir des sources. Nous, on est un peu plus spécialisés dans les traditions martiales germaniques, donc de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et on pratique en particulier l'épée à deux mains, qui est l'arme de base, en fait. Aujourd'hui, on va faire de la dague aussi, donc du poignard, et donc le bâton à deux bouts, qui est l'arme pour s'entraîner au bâton et à la lance, et qui a la particularité, comme son nom l'indique, d'avoir deux bouts. Donc, en fait, ça comme arme. Et après, on avance un peu dans les siècles, et par rapport à la Somme, et puis par rapport à son histoire, on arrive au 19e siècle, avec le sabre sous la période napoléonienne, donc au 19e siècle, un petit peu plus tardif, et tout ce qui concerne le combat à la baïonnette, en fait, justement par rapport à la Somme, le combat des tranchées, la bataille de la Somme. Et donc la baïonnette est une arme qui a été énormément étudiée et exploitée par les maîtres d'armes et puis les officiers pour expliquer comment on manipule cette arme qu'on voit souvent, mais on ne sait même pas que c'est une arme qui se manipule de manière technique.
Donc vous avancez jusqu'au 19e siècle, et jusqu'à quel point de l'histoire ça remonte, au plus tôt ?
Alors, normalement, la définition dans les arts martiaux historiques européens, c'est de l'Antiquité jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, même s'il y a des sources plus tardives. Et en fait, avant le XIVe siècle, les sources qu'on va étudier, en fait, ce sont avant tout des sources iconographiques, des images, des objets, des reproductions des objets, parce qu'on n'a pas forcément de sources techniques. Mais on peut très bien faire du combat de hoplites grecs ou du combat de gladiateurs, par exemple. Mais ça, c'est d'autres spécialités. J'en ai fait de manière professionnelle. Mais là, on se concentre pour l'association RECT sur le 15e, 16e siècle. Hop, on saute un petit peu. Et puis le 19e siècle, parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Il faut choisir, malheureusement.
Il me semble avoir vu que vous proposiez également des combats à cheval.
Oui. Alors moi, c'est mon autre étiquette. Hein. J'ai un passif sur le... du domaine équestre, et effectivement j'ai pu associer mes deux activités, mes deux passions, donc du combat à cheval, donc du sabre à cheval, et puis j'ai déjà donné des ateliers de lutte allemande à cheval. Alors c'est un niveau, on peut travailler très bien quelque chose de technique sans forcément le réaliser à 100%. Donc on va travailler sur la lutte à cheval, mais c'est pas pour ça qu'on va casser des bras et abîmer des chevaux au nom de l'histoire et de la science, quoi.
Alors, ces pratiques sont ouvertes à tous ? Tout le monde peut les pratiquer, ou ça demande une certaine expérience ?
Franchement, c'est ouvert à partir de 18 ans pour nous, 16 ans avec dérogation parentale. On a même des personnes un peu plus expérimentées dans l'association, en fait. Notre but, c'est vraiment de passer un beau moment avec une activité à la fois sportive, à la fois historique. Si on veut travailler un peu plus le physique, on peut, on en a besoin, en fait. Faut avoir une condition, en gros, l'échauffement et puis les sparring, donc les assauts libres qu'on va faire à la fin, sont assez éprouvants. On porte des protections, on porte des masques, on porte des vestes épaisses. Avec les températures qu'il fait, faut avoir une condition physique générale qui permet de pratiquer, qui est similaire à beaucoup d'autres sports, quoi.
Donc comme vous le disiez, dans le déroulé de ces séances, il n'y a pas forcément que de l'activité physique, il y a aussi une partie théorique, apprentissage historique ?
C'est ça. En fait, nous on pratique le dimanche matin, et vous savez, le dimanche matin, les gens ils n'ont pas forcément envie de faire que se transpirer. Donc s'ils veulent, c'est possible, on peut les faire transpirer, il n'y a pas de problème, on connaît plein de techniques pour les faire transpirer. Mais à la base, en fait, comme on se base sur des traités théoriques et pratiques d'escrime avec différentes armes, eh bien il y a une partie... En gros, on va entre guillemets, traduire ces textes-là qui sont écrits dans des langues étrangères, déchiffrer les interactions possibles, les techniques. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Et en fait, en fonction du programme, en fonction de l'avancée des uns et des autres, en fait, on va essayer d'associer cette partie découverte, recherche autour de l'histoire, et puis cette pratique physique. Et en fait, si on veut transpirer, c'est possible. Si on veut faire de la traduction du moyen haut allemand, c'est possible. En fait, c'est très très large comme activité.
Et il y a une pratique de ces arts martiaux historiques européens en compétition ?
Alors il y a une pratique, tout à fait. En fait, il y a une pratique en compétition, c'est possible. Nous, c'est pas du tout l'objet de notre association, parce que l'histoire montre que quand on part sur une pratique sportive et de compétition, en fait, on s'éloigne des pratiques historiques. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on va facilement vouloir gagner un combat au-delà du respect du geste historique. On va vouloir essayer de trouver la technique optimisée. On n'est pas du tout dans une démarche comme ça à l'époque. On est dans une démarche du beau et du bon, de la pratique artistique qui respecte un code très établi, en fait. Et donc, en compétition aujourd'hui, c'est compliqué de respecter ce code-là. Donc, on organise des compétitions, on fait des compétitions, mais on n'est pas axé 100% compétition parce que le niveau général en France et en Europe est encore très petit. C'est une activité qui remonte à 20 ans, hein, les arts martiaux historiques européens.
Et rappelez-nous, où vous proposez de faire ces activités déjà ?
Alors, c'est tous les dimanches matins de 10h à midi au gymnase Edmond Rostand à Amiens, rue de Prague. Et voilà, donc n'hésitez pas, on reprend pour les nouveaux en octobre. Et donc passez, contactez-nous, passez venir nous voir, essayez, ça vous plaît pas, il n'y a pas de problème. Et c'est ouvert à pas mal de monde.
Et à titre informatif, combien coûte l'adhésion à l'association ?
Comment ?
À titre informatif, combien coûte l'adhésion à l'association ?
On est à une adhésion à 100 euros. Mais il y a du matériel à acheter parce que le matériel, ça se prête pas forcément. Ça se prête au début, mais après, c'est intéressant quand même de transpirer dans son masque, dans ses propres gants. Et puis, c'est quand même super cool d'avoir une épée métal pour Noël.
Et il y a la possibilité d'une séance gratuite pour découvrir...
Bien sûr. Aucun problème. Faut passer, voilà, partir de 18 ans, 16 ans avec dérogation parentale. Venez nous voir et puis vous allez découvrir une pratique un petit peu originale qui sort... de ce qu'on peut voir à la télévision ou dans les films ou dans les séries ou dans les jeux vidéo, voilà, transpirer pour de vrai.
Pour conclure, vous pouvez peut-être nous faire un petit point sur des projets à venir, s'il y en a.
Alors les projets à venir, oui, on a fait pas mal de démonstrations dans les musée de Picardie, à Amiens, musée Sandelin. Là, je vais être au musée, au centre historique d'Azincourt, le week-end. Pas prochain, c'est le week-end des Journées du Patrimoine, donc on est aux Archives Départementales du Nord avec les copains de Lille. Donc passez, si vous êtes sur Lille, Archives Départementales du Nord, vous allez voir plein de démonstrations. Et la semaine d'après, formation, stage ouvert à tout le monde au musée d'Azincourt. Et après, le planning est encore chargé, mais il faut regarder sur nos sites et nos Facebook et nos contacts.
Bah, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette association atypique, si je puis dire.
Bah oui, c'est notre quotidien, alors c'est pas atypique du coup. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup Pierre-Henri, merci Antoine pour l'interview. Donc c'est déjà la fin de cette première heure de direct au Salon des associations d'Amiens Métropole. Là on va faire une petite pause collation comme je vous le disais ce matin. On revient à 14h avec toujours plus d'interviews. Donc voilà, ne nous loupez pas à 14h et là on se quitte avec le morceau Looking For de Last Night We Killed Pineapple.